Sud Radio, ça roule 11h30. Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et oui, nous sommes ravis de vous accueillir pour le, allez, ça y est, premier samedi du mois de décembre. Nous sommes le samedi 5 et malheureusement, vous le savez, la période est un peu tristouille. Alors, on va l'égayer. On va l'égayer en pensant que ce sera pour vous peut-être le premier week-end où vous allez pouvoir aller faire les courses de Noël. Geste barrière, bien évidemment. Mais prenez du plaisir. Et pour aller faire ces courses de Noël, qu'allez-vous faire? Vous allez prendre votre voiture. Et pour prendre sa voiture, il faut tout un, allez, on va dire ça comment, une structure incroyable des métiers de l'automobile. Et on va avoir le bonheur ce matin d'accueillir Xavier Oran, qui est le DG du CNPA, le Comité National des Professionnels de l'Automobile, dont on parle beaucoup. Je suis presque un peu émue de vous accueillir, Xavier. Que se passe-t-il?
J'en suis ravi, Laurence. Le plaisir est pour moi et je salue tous vos auditeurs et je suis très heureux d'être avec vous ce matin.
Si vous voulez rencontrer Xavier, vous venez sur la page Facebook de Sud Radio et je crois que d'ailleurs on va y retrouver puisqu'il est arrivé notre ami Pierrot. Salut mon Pierre.
Ouais, oui, on m'a connecté trop tard. Voilà, donc...
Mais c'est vrai,
Laurence.
Mon doudou, mais je te vois pas encore. Où es-tu?
Je suis là, t'inquiète pas, je suis jamais très loin de toi. Salut à Xavier, et puis aujourd'hui, plein de beaux sujets, le contrôle technique, on va en parler, parce que ça sera le moment aussi de bien faire contrôler son véhicule, et c'est pas Xavier Oran qui va nous dire le contraire, notamment à l'approche de cette période hivernale. Ça commence un petit peu à cailler. Moi, on me parle de réchauffement climatique, mais je vais vous dire, je me gèle les petons.
Hein. Oui, mais enfin, c'est normal, c'est un peu la fin de l'automne et le début de l'hiver. Alors, autre sujet également.
Tout est normal, quoi.
C'est ça, tout est normal. On va aussi donner la parole aux passionnés de voitures de collection. À midi, nous vous donnons rendez-vous aussi au 0826 300 300. On va parler de cette passion collection d'une grande majorité des Français avec François Alain, qu'on connaît bien également, monsieur voiture de collection sur le parc automobile français et qui a de nombreuses émissions de télé comme le fameux Vintage Mécanique sur la chaîne de RMC. Hey, mon Pierrot, est-ce que notre ami Gaspard est là? Mais oui, ça y est, je le vois. Salut mon Gas.
Bonjour Laurence, bonjour Pierre, bonjour à tous.
Alors, vous l'avez compris, plein de sujets. La première question que l'on vous pose, les métiers de l'automobile ont-ils besoin d'être protégés et d'être défendus? Vous en pensez quoi? 0826 300 300, vous nous rejoignez et vous répondez également sur le Twitter, @sudradio, où l'on vous propose cette question, les métiers de l'automobile ont-ils besoin d'être protégés et défendus? Mais tout de suite, place au coup de cœur, coup de gueule, et c'est ton tour Gaspard.
Sud Radio, ça roule.
Petit coup de cœur ce matin pour la Fédération française des véhicules d'époque qui se mobilise actuellement auprès des métropoles et du gouvernement pour sauver la voiture, les voitures de collection des fameuses zones de faible émission. Mmh. Alors leur principal argument, il est clair, la part des voitures de collection, ça représente environ 1% sur tout le parc automobile français, donc c'est très peu et évidemment ces voitures font très peu de kilomètres en moyenne par an, donc on espère que ça va marcher pour les voitures de collection.
Et bien voilà, ça c'est un premier coup de cœur. Un coup de cœur aussi pour moi avec Uber, voilà, oui, une fois n'est pas coutume, qui va offrir des courses, oui, exactement, Uber, le VLC, et qui va offrir des courses, donc vous n'hésitez pas à aller vous renseigner sur le site d'Uber. Vous avez besoin d'une course, ou en fait ils ont appelé ça le traîneau du Père Noël, c'est une avant-première qui va être à partir du vendredi 18 décembre, alors ça se passe malheureusement dans le centre de la capitale, mais ça peut aussi concerner tous les franciliens, où l'on écoute Sud Radio sur le 99.9. Dans le centre de Paris, une voiture Uber Xmas, Christmas exactement, va être disponible pour vous emmener gratuitement où vous le souhaitez, dans Paris. Donc voilà, c'est un petit coup de cœur parce que je trouve ça plutôt mignon. Les temps sont un peu durs et là, pour le coup, ils font un truc un peu sympa. Et toi, mon Pierre?
Eh bien, moi, j'ai un coup de cœur et puis un coup de mou. Alors, ce coup de cœur, il sera pour ma pomme. Ce n'est jamais aussi bien servi que par soi-même.
Mais j'y crois pas.
Et je vais vous expliquer pourquoi à tous. Parce qu'en fait, hier, j'étais à un truc qui s'appelle le comité des usagers. Alors, qu'est-ce que c'est que le comité des usagers? C'est un endroit, c'est une réunion dans laquelle on a tout plein d'associations qui viennent entendre les hausses des tarifs autoroutiers mises en place et proposées par les sociétés d'auto route pour le 1er février de l'année prochaine. Et comme tous les ans, ils nous ont fait un coup exceptionnel puisque les sociétés d'autoroute nous proposent une hausse des tarifs autoroutiers d'environ plus 0,45%, donc un demi-point. C'est certes pas énorme, mais c'est une hausse quand même. Et tout cela dans un contexte où il n'y a pas eu d'inflation en France, voire même pire, on a eu une récession de moins 0,2%. Donc en fait, moins de pouvoir d'achat, plus de tarifs de péage pour les sociétés d'autoroutes qui se cachaient toujours derrière en disant « oui, mais on fait ça parce qu'il y a l'inflation ». Ça ne tenait pas. Et tu me connais, Lolo, j'ai poussé un méga coup de gueule et pour la première fois, toutes les associations d'usagers, la FFMC en tête, sont venues me soutenir, y compris les associations écologistes comme France Nature Environnement, et je les salue grandement à l'antenne aujourd'hui, car grâce à eux, le comité des usagers a donné un avis négatif aux sociétés d'autoroutes, un avis, ce n'est qu'un avis, envoyé au gouvernement, mais le comité des usagers, avec tout le tissu associatif français, s'oppose fermement à l'augmentation des péages, y compris les transporteurs routiers, la Fédération des transports en commun. Tout le monde est opposé. Alors, je me dis que peut-être on va enfin, nous, petits usagers de rien du tout, conduits par 40 millions d'automobilistes, réussir enfin à faire en sorte que les tarifs autoroutiers ne montent pas.
Très bien. Eh bien, bravo d'avoir partagé en plus cette information. Et on sait qu'on peut compter sur toi et sur 40 millions d'automobilistes pour nous tenir informés des suites de ces événements. On est d'accord ?
Oh là oui, ça sera un sujet, bien évidemment.
Allez, dans quelques instants, juste après la première pause de ce rendez-vous, vous le savez, comme Pierre vient de le dire, nous sommes à peu près 40 millions d'automobilistes. Et pour que nous puissions rouler librement, en toute sécurité, ce sont plus de 135 000 entreprises qui travaillent chaque jour dans les métiers de l'automobile. Ces métiers qui, depuis 1902, sont réunis par le CNPA, le Comité National des Professionnels de l'Automobile, dont on vous parle assez souvent d'ailleurs, hein, dans Ça Roule. Qu'est-ce que ce Comité National des Professions de l'Automobile ? À quoi sert-il ? Est-il encore utile aujourd'hui, alors que l'on veut enlever les voitures telles que nous les connaissons de notre quotidien ? On en parle avec son délégué général dans quelques instants, avec vous bien sûr au 0826 300 300, avec d'autres professionnels qui vont nous rejoindre et vous avez la parole, nous serons avec Xavier Oran, toutes les questions, les réactions, on vous attend, 0826 300 300.
Sud Radio Ça Roule, 11h30, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et on est ravis de vous accueillir et de vous retrouver pour ce sujet que nous avons voulu avec Pierre. Et je peux vous dire, alors pour être très honnête avec vous, et vous connaissez notre direction à Montpierrot, on a dragué Xavier Oran, surtout moi, professionnellement, oui. J'entends, pour avoir...
Il n'a pas été sensible à mes charmes, Xavier, du tout, c'est pas pour
toi. Le délégué général du CNPA, encore un grand merci Xavier de vous être rendu disponible.
Laurence et Pierre. Merci infiniment.
Alors, la semaine dernière, on a parlé de vous. On va rentrer directement dans le sujet. Vous, en tant que DG, mais vous, en tant que CNPA. Parce que, pourquoi on a voulu ce sujet ? C'est qu'actuellement, mon Pierre, il y a un tel car bashing, plus la Covid, plus les problématiques commerçantes, plus les manifestations qui détruisent, que les métiers de l'automobile sont en souffrance s'il n'y a pas le CNPA. Qu'est-ce que le CNPA ?
Ah, qu'est-ce que le CNPA ? C'est une grande question. Je vais essayer d'y répondre de manière rapide. Le CNPA, c'est le Conseil National des Professions de l'Automobile. Qui est vraiment le représentant de tout cet écosystème qui passe un peu trop souvent sous les radars, parce que quand on parle d'automobile en France, on parle de
radar. Pardon, ça me fait toujours
oui,
ça, Xavier.
Oui, Pierre, c'était facile. je l'attendais, c'était un clin d'œil. Je vois que Pierre est en forme.
Toujours.
Donc, il passe en tout cas sous les radars un peu médiatiques. Il y a d'autres formes de radars, effectivement, mais cet écosystème est absolument gigantesque. Pourquoi ? C'est en fait la première force de l'automobile en France. Quand on parle d'emploi direct... C'est un bloc de 500 000 personnes qui travaillent dans ce secteur. C'est 540 000 entreprises, c'est un chiffre d'affaires de 140 milliards d'euros, et donc c'est une force qui est inscrite dans tous nos territoires, qui est implantée dans tous nos villages, dans toutes nos villes, bien loin souvent du périphérique parisien dont on parle tant. Il y a la France, il y a nos territoires, et j'ai l'habitude souvent de dire que l'empreinte économique, sociale, culturelle, territoriale, eh bien ce sont les services de l'automobile qui ont structuré ce paysage depuis déjà largement plus d'un siècle. Et c'est un écosystème qui est constitué d'une trentaine de secteurs d'activité différents. Et ces 30 métiers différents qui sont tous interdépendants, qui vont de la distribution de véhicules jusqu'à le recyclage, c'est une chaîne complète, c'est un écosystème totalement cohérent que le CNPA a l'honneur et le privilège
alors,
de représenter.
Les petits chiffres rapidement, on a un contrôle de 25,9 millions de véhicules dans les centres de contrôle technique, j'en parle parce qu'on va en parler dans l'émission. 21 millions de locations, 7,5 millions de locataires, il y a 255 000 de roues, il y a 2,1 millions de véhicules neufs vendus tous les ans, 5,5 millions de véhicules d'occasion, etc. Vous éliminez 1 million de véhicules hors d'usage, etc. C'est-à-dire que quand je suis au volant de ma voiture, c'est ça qui est important, Pierre, je pense, c'est de comprendre qu'il n'y a pas que celui qui a construit ma voiture, il n'y a pas que l'usine ou la marque, il y a tout cet écosystème autour qui va faire que je vais pouvoir rouler libre. C'est ça, mon Pierre.
Et puis un souci aussi quand même, parce que là, Xavier, je pense qu'il faut en parler, on ne peut pas passer outre. Hein. Tu représentes avec le président Bartholomé une filière qui est capitale en France.
Ah bah oui.
500 000 emplois, c'est, si tout le monde bascule au chômage, on ne peut pas. Et pourtant, à côté, on est quand même dans un vent qui fait peur. Je pense notamment à ce qui se passe du côté de la métropole de Lyon, où on veut interdire 70% des véhicules du parc automobile de circuler, les véhicules diesel notamment. Ces idées vont être reprises, hein, faut pas se leurrer, par d'autres maires écolos qui vont vouloir agiter un petit drapeau vert pour se donner l'air malin. Et là, dans le milieu, ben, le CNPA essaie de tenir, c'est du lobbying, mais le lobbying est un joli mot quand il s'agit de défendre des emplois et la mobilité et l'intérêt général.
Et puis même...
On a ce chiffre, 87% des départs en vacances se font en voiture, Xavier. Et comment réagit le CNPA vis-à-vis de ces restrictions automobiles?
Et je vais aller dans ton sens, mon Pierrot, l'automobile rapporte annuellement environ 40 milliards d'euros en taxes spécifiques et en dépenses de l'État.
C'est même beaucoup plus que
c'est
ça.
C'est un acteur...
C'est le carburant. C'est le double. 40 milliards d'euros, c'est effectivement les taxes qui sont assises sur le carburant.
Je parlais de...
Totalité de la contribution fiscale de la filière automobile dans son ensemble, c'est 80 milliards d'euros.
Wow.
C'est quasiment l'équivalent du plan de relance dont l'économie aura impérativement besoin pour essayer de se ressaisir et de redémarrer. Donc quand on parle effectivement d'automobile, il ne faut jamais oublier les réalités sociales et territoriales. Et j'ai l'habitude de dire qu'il faut penser un peu au-delà d'un projet de loi de finances, qu'il faut penser bien au-delà du périphérique parisien, parce que, de fait, les Français, les Françaises ont besoin de cette mobilité individuelle, encore plus dans le contexte sanitaire que nous connaissons, pour pouvoir se déplacer. L'automobile, c'est d'abord un instrument de liberté. C'est un instrument qui permet l'insertion sociale, qui permet d'accéder à une formation. Le permis de conduire dont on parle tant, au-delà du simple permis de pouvoir circuler, c'est souvent le sésame pour accéder sur le marché de l'emploi et sur
vous n'avez pas le permis,
au revoir,
monsieur.
Ce sont des réalités. 60% de la population française, au moins, habite dans des villes de moins de 20 000 habitants. Et donc, il faut faire attention à ce qu'une minorité qui représente plutôt les hypercentres urbains n'impose pas, quelque part, de manière un peu trop dogmatique et sans doute de manière trop excessive, des politiques qui vont contre la mobilité des Français. Juste d'un mot, pour ne pas être trop long, on a l'impression que il faut rester confiné et immobile, qu'il faut limiter les déplacements. On entend beaucoup parler du monde d'après. Le monde d'après, je rappelle que dans ce fameux monde qui est en train d'arriver, qui est en continuité avec l'ancien, en réalité, les besoins de mobilité vont croissant. Dans le monde, les besoins de mobilité vont être multipliés par deux d'ici les 20 prochaines années. La mobilité, c'est la croissance. Il ne peut pas y avoir de croissance sans mobilité. Il ne peut pas y avoir de liberté sans mobilité individuelle. Et donc l'intérêt, c'est de sortir aussi des manichéisme. On aura l'occasion d'en reparler avec la question de Pierre qui va sans doute me relancer et je me doute toi aussi. Mais il faut sortir de ces visions un peu caricaturales.
Alors,
quand on parle de mobilité.
On va essayer, Pierre, très rapidement parce qu'on a du monde.
On a besoin de croissance pour la mobilité.
Ah bah,
et pour la mobilité, on a besoin d'aller chercher les croissants aussi. Et donc, au bout d'un moment, on a besoin... oui, je sais, elle est nulle.
Mais... non, c'est une Lolo, c'est une perroderie qui vient de faire, là.
non, mais cependant... Bah, attends, je suis à bonne école depuis 5-6 ans. Mais ça me paraît essentiel, peut-être. Et je vais mettre les pieds dans le plat, Xavier.
Oui, mais
je
très rapidement, mon moment... Pierre, parce qu'on a du monde qui attend au standard, mon grand.
Il a envie de mettre les pieds dans le plat.
Je me demande si à un moment, il va pas falloir mettre les pieds dans le plat un petit peu plus fort que ce qui est fait jusqu'à présent. Parce que pour l'instant, le discours politique passe devant le discours scientifique. On est dans la croyance et on n'est plus dans les études.
Je suis d'accord
Xavier
avec ce
Orang.
Que dit Pierre. Je trouve que... Beaucoup de contre-vérités sont dites sur l'automobile de manière générale et il faut que tous ses représentants montent effectivement un peu plus le volume du son. On n'a pas à s'excuser de ce qu'est la filière automobile aujourd'hui. Elle a fait des progrès absolument exceptionnels au cours des prochaines décennies. On parle beaucoup de CO2. Le CO2, il a chuté de près de 40% sur ces 20 dernières années. On parle de qualité de l'air. C'est tout à fait important de parler de la qualité de l'air, alors que les questions sanitaires n'ont jamais été aussi pressantes. Mais en réalité, la qualité de l'air, elle n'a jamais été aussi bonne qu'aujourd'hui. Parce que les principaux polluants que vous connaissez bien, que ce soit le plomb, le benzène, les particules fines, les oxydes d'azote ont chuté au cours de ces dernières années. Ce n'est pas le CNPA qui le dit, ce sont des organismes publics tout à fait officiels et qu'on ne peut pas taxer d'une complaisance particulière à l'égard de l'automobile. Donc il y a beaucoup de choses à raconter et il faut représenter l'automobile de manière totalement différente. Pourquoi ? Parce qu'elle est inscrite dans la transition écologique et que du succès de la filière automobile dépendra aussi la réussite de la transition écologique qui est à mener.
Et une dernière étude sur la qualité de l'air en Europe n'a jamais été meilleure depuis 10 ans et tombée il y a une petite dizaine de jours.
À peine. C'est pas moi qui le dis.
Et non.
L'Agence européenne pour l'environnement.
Absolument.
Alors, on a Pascal Fromont qui est avec nous, que vous avez désiré inviter également, comme nous aurons aussi un représentant d'une concession dans quelques instants. Et puis il y a Roland aussi qui attend, qui veut intervenir au 0826-300-300. Je vais devoir, tu sais, mon côté un petit peu merfouettard, mon Pierrot, je vais devoir un tout petit peu vous embêter avec le timing pour qu'on puisse donner la parole à tout le monde, parce qu'il y a des choses importantes et graves qui se sont passées pendant ce confinement et qui ont attaqué le milieu de l'automobile, et on ne peut pas ne pas en parler, c'est une évidence. Mais tout de suite, on accueille Pascal Fromont. Bonjour monsieur Fromont.
Bonjour Laurence.
Comment ça va ?
Très bien. Alors, j'ai entendu que vous parliez beaucoup de chats dans votre émission, donc
de
je suis ravi. Oui, précédemment.
C'était
à vous,
juste avant. Ouais. Vous aussi, vous aimez les chats, moi aussi. Pascal Fromont, directeur de Winston Conseil. Alors, on vous accueille aussi pour parler du CNPA, puisque vous travaillez beaucoup avec Xavier Oran et avec le président et tout le monde. Mais c'est surtout, vous aviez envie de parler d'aujourd'hui et demain, vous, en termes, entre autres, de communication. C'est ça, Pascal ?
En fait, ce que je voulais vous dire, quand même, c'est que, par rapport à vos auditeurs, ce qu'il faut quand même bien signaler, c'est que le CNPA, c'est évidemment le partenaire des professionnels, mais c'est également le partenaire des automobilistes.
Eh ben oui.
Parce que sans le CNPA, la prime à la conversion, je pense pas qu'elle aurait été aussi dynamique, parce que sur d'autres sujets très importants, comme par exemple celui de la propriété des data des automobiles, donc bon, le CNPA et vit un combat de tous les instants pour protéger les automobilistes, faire en sorte qu'ils restent propriétaires de leurs data et que les constructeurs ne prennent pas la main complètement sur l'automobiliste. Donc c'est ça que je voulais vous dire, c'est que finalement on parle beaucoup du CNPA par rapport aux professionnels, mais les effets induits par rapport aux automobilistes, ils sont immenses. Voilà, et c'était un peu le témoignage que je voulais faire par rapport à votre émission, en disant que le CNPA aussi, c'est une organisation fabuleuse que je fréquente depuis 5 ans. C'est une organisation qui incarne des valeurs fortes, donc 4 valeurs principales qui sont l'engagement, le sens du service, la proximité, la confiance, le tout emballé par un Xavier qui est un véritable missionnaire, un enthousiasmeur, et par son président
Francis Bartholomé.
Oui. Qui a toujours dit qu'il était à égale distance de tous les métiers. Et ça, c'est très, très important.
Oui, c'est
parce
important.
Que ce que je crois, c'est que pour l'avenir, le CNPA devra vraiment avoir pour objectif d'accompagner la transformation des métiers. Ça va être un enjeu très, très important. Il va falloir engager les métiers vers plus de transversalité pour mieux combattre le car bashing. Parce que c'est pas un métier qui peut combattre le car bashing. Ce sont tous les métiers.
Tous les métiers. Et puis là je vois mon Pierre qui a un sourire magnifique. Oui, non au car bashing. Et c'est vrai que le CNPA peut travailler là-dessus. On va revenir dans quelques instants. Pascal Fromont, merci beaucoup d'être intervenu.
Xavier,
on garde Pascal. Vous voulez réagir dans quelques secondes après la pub?
Après la pub.
Et puis surtout, on va parler de ce piège qui a été mis en place par la DGCCRF auprès des concessionnaires pour les piéger. Oui, madame, oui, monsieur, vous entendez bien. Et on en parlera avec un concessionnaire qui sera également avec nous. Il s'agit de Thomas Courtois, qui est patron du groupe Courtois. Et vous allez voir, tu vas voir Pierre, il va nous révéler des choses pas jolies, jolies. Décidément, il se passe des choses vraiment pas belles dans notre pays en ce moment. À tout de suite.
Sud Radio, ça roule. Ah oui. Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et avec vous, bien sûr, au 0826-300-300, nous continuons de parler du CNPA, le fameux Conseil National des Professionnels de l'Automobile. Et cette question que je vous posais sur Twitter, donc vous pouvez continuer de réagir. Les métiers de l'automobile ont-ils besoin d'être défendus ? Vous dites oui à seulement 51%. contre 49% non. En fait, ça veut bien dire ce qu'on pensait quand même avec Pierrot, c'est que nous, on est à fond dedans, évidemment, on a la tête dans le guidon ou dans le volant, mais la majorité du grand public ne sait même pas que vous existez. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on voulait que Pascal Fromont soit là, en tant que communicant, monsieur le créateur du chat blanc de feu vert. Hein, Pascal, toujours avec nous ?
Oui, bien sûr, je vous écoute.
Réaction Xavier Auron à ce chiffre, hein, ça prouve bien que le grand public ne connaît pas trop le CNPA.
La vocation du CNPA est de servir d'abord les chefs d'entreprise, c'est son objet même, mais je suis entièrement d'accord avec Pascal, on est arrivé à un point de l'histoire de l'automobile, ou plus exactement de la mobilité, qui implique de la part du CNPA de pivoter et de se tourner de manière beaucoup plus forte vers les clients de nos clients, et donc effectivement de nous adresser à l'opinion publique de manière beaucoup plus forte. Nous nous organisons avec Francis Bartholomé et les équipes pour cela. Ça nous permet de nous réinventer, d'avoir un nouvel élan par rapport à ces réalités-là, de prendre beaucoup plus la parole auprès de l'opinion publique, et puis de transmettre des idées, des opinions, et puis de relayer des actions de lobbying qui peuvent être très fortes aujourd'hui.
Là, concrètement, Pierre, quand on voit ce résultat, 51% seulement disent oui, les métiers de l'automobile doivent être protégés, ça veut dire que les Français n'aiment pas les métiers de l'auto ou quoi ?
Non, Pierrot. Compliqué que ça. En fait, Twitter est un outil, c'est un réseau social, mais sur lequel tout est anonymisé. Et en fait, je me rends compte que le microcosme un peu écologiste est très présent sur ce type de réseau et pollue un petit peu l'intégralité des sondages qui sont mis en place. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont persuadés qu'il faut absolument sauver la planète et que ça passe par tuer l'automobile. Et ces gens-là, qui n'ont pas besoin d'auto, ils doivent avoir une vie assez triste, hein, ceux qui ne montent jamais dans une voiture, parce que je ne connais personne, moi, qui ne monte jamais dans une voiture. Tout le monde est automobiliste à un moment donné. Eh bien, malheureusement, ces gens-là, au bout d'un moment, ils ont tellement de temps qu'ils finissent par traîner du matin au soir sur les réseaux sociaux, à dire du mal des autres et à vouloir faire de leur vie un combat pour que les autres n'aient plus de mobilité. Donc, au final, on se retrouve avec des sondages biaisés parce que la réalité, l'opinion publique solidaire, c'est à 95% la même. On est tous automobilistes, on a tous besoin de notre voiture. On parle de Noël. Moi, hier, Lolo, je suis parti acheter mes petits cadeaux de Noël. Les magasins étaient pleins, mais pleins à craquer. Et ils sont venus comment dans les périphéries? Sont tous venus en voiture. Et puis ils ont rempli quoi? Un coffre. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et j'ai pas vu de vélo cargo qui venait sur le parking d'Auchan, Leclerc et Carrefour pour aller faire les magasins dans les centres commerciaux. Je n'ai pas vu de vélo cargo parce que aujourd'hui il fait 0 degré le soir. Et s'il se met à flotter, on sera bien content d'avoir nos voitures.
Oui, tout à fait. À flotter.
Il va falloir durcir le ton. J'ai vu que le CNPA a durci le ton vis-à-vis des personnalités politiques ces derniers temps, parce que c'est allé trop loin, parce qu'on commence à franchir la ligne. Ouais. Nous, à 40 millions d'automobilistes, on a été obligés, ça nous a été reproché dans un premier temps, on a été obligés de durcir le ton pour faire entendre l'opinion. Et aujourd'hui, eh bien, ça commence à porter ses fruits, même s'il y a un espèce de clivage assez désagréable où il y a 2-3 personnes comme ça qui se font entendre très fort pour tuer l'automobile.
Xavier, réaction, et puis après on va saluer Pascal Fromont.
Dans ces réseaux sociaux, il faut toujours prendre du recul, et il est vrai qu'il y a une surreprésentation, parfois d'un certain nombre de militants, pour dire les choses simplement, plutôt anti-voiture, qui alimentent ce carbashing permanent, et qui viennent à rendre le paysage très confus, à tout point de vue, et finalement, sans jeu de mots, à polluer les esprits quand on parle d'automobile. Et il est vrai qu'à l'inverse, les professionnels de l'automobile, de manière générale, sont plutôt discrets dans leur communication et sont plutôt sous-représentés, en particulier sur ces réseaux sociaux. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avec les équipes, nous montons en gamme de manière très forte sur ces fameux réseaux sociaux. Il faut prendre la parole, et comme je le disais tout à l'heure, l'automobile n'a à être plutôt fière d'elle-même. Elle n'a pas à s'excuser de ce qu'elle est.
Elle sait évoluer, elle sait prendre le virage.
Elle a pris le virage, elle se transforme, c'est une industrie tout à fait exceptionnelle au niveau de sa capacité technique, c'est une industrie qui est un moteur économique et social pour le pays, il est temps de s'en rendre compte et il est temps effectivement de ne pas esquiver les rapports de force qu'on peut retrouver au Parlement ou auprès du gouvernement, que ce soit à Paris ou à Bruxelles.
Mais vous avez dû vraiment vous battre ? Il a fallu prendre rendez-vous directement avec le ministre ?
Bien sûr, c'est très important. Aujourd'hui, les décisions sont très difficiles.
Mais comment ça se passe ? Vous tapez à la porte et vous dites stop ? Vous tapez sur la table ?
Je pense que nos professionnels qui nous écoutent et vos auditeurs, il faut ensemble faire beaucoup plus bloc. Les agriculteurs savent se faire entendre.
Oui.
D'autres professions savent très bien se faire entendre. Les routiers, par exemple. Il ne s'agit pas de rentrer, comme je disais tout à l'heure, dans un affrontement. Le pays n'a pas besoin d'affrontement. Le pays, il a besoin de trouver des solutions collectives.
Tout à fait, surtout
pour
en
trouver
ce
ces solutions collectives, il faut se méfier des dogmatismes, en particulier quand on parle de mobilité. La filière doit faire cette transformation. Elle fait cette transformation. Mais encore faut-il que les agendas et les moyens qui sont donnés, qui sont affectés à la filière et aux automobilistes, se passent dans des conditions qui soient soutenables,
mais
pour
alors,
les uns comme pour les autres.
Je suis d'accord avec vous deux, évidemment, vous le savez, mais je me fais toujours l'avocat du diable, et on va tout de suite accueillir Thomas Courtois, qui attend depuis un petit moment. Comment le grand public, dont je fais partie, peut être informé de ce qui se passe vraiment en... Tu vois, Pierre, tu es le premier à te battre contre les écologistes qui racontent des bêtises. Comment le grand public, qui n'est pas spécialement aguerri à ça, peut aller même découvrir... Écoute, Pierre, on va tout de suite accueillir Thomas, parce que le temps passe très vite, excuse-moi mon grand, mais tu vas voir ce qui s'est passé dans la concession, dans des concessions avec la DGCCRF. Comment est-ce qu'on peut, du coup, accompagner le grand public dans la connaissance des faits réels? Bonjour Thomas Courtois.
40 millions d'automobilistes.
Oui, c'est bonjour. Vrai, tu as raison. Et tu as raison. Thomas Courtois, patron du groupe des concessions Courtois, un petit peu partout. Comment allez-vous?
Je vais bien, je suis en week-end porte ouverte, je suis dans mon bureau et je vois le showroom et je vois des vendeurs occupés.
Bon, ça fait plaisir.
Parce qu'aujourd'hui, nos vendeurs ont le droit de faire leur métier normalement. Ils ne sont pas schizophrènes aujourd'hui.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'au mois de novembre, on avait une expérience assez intéressante qui est, je pense, du même acabit que les stations de ski. À savoir, vous avez le droit d'aller à la neige, on vous montre, mais vous n'avez pas le droit de prendre le télésiège. Au mois de novembre, on avait le droit de livrer des véhicules vendus, donc véhicules d'occasion, véhicules neufs. On avait le droit de réparer des véhicules. On avait le droit de livrer des pièces de rechange. On avait le droit de livrer du carburant. Lorsqu'on a des concessions, on a tous ces métiers-là. On avait le droit de dépanner des clients. Donc, au quotidien, on avait des clients qui venaient dans nos showrooms, donc en réception après-vente, pour venir réparer leur véhicule. Donc, sur certains showrooms, c'est 50 à 60 personnes par jour qui sont en flux régulier. C'est pas d'un seul coup, donc on était en dessous des jauges autorisées. Mais par contre, sur la vente, c'était très particulier, puisque comme cette partie-là du métier, et ça c'est le millefeuille à la française, qu'on aime bien, sur cette partie du métier, on était établissement recevant du public, donc... interdit d'activité sur site. On avait le droit de vendre des voitures sur Internet, droit de vendre des voitures à distance, montrer des véhicules, mais pas de contact physique. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, autant l'administration et lors des discussions qu'il y a eu sur le premier confinement, le CNP a eu un vrai rôle d'expliquer le côté essentiel de notre métier. Une infirmière qui a un pneu crevé, elle peut pas aller soutenir ou aller assurer son CV. Donc on était sur des métiers essentiels là. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez des gens de la DGCCRF, donc c'est vraiment pour nous piéger. C'était même pas pour faire des contrôles. C'est qu'ils venaient en concession, soi-disant sous couvert de rendez-vous en après-vente. Comme nos ateliers, nos réceptions après-vente sont souvent positionnées dans des showrooms pour avoir du flux clientèle au milieu de nos voitures neuves. Ils venaient ensuite, faisaient semblant de s'intéresser à des véhicules ou aller sur notre parc véhicules d'occasion et demandaient s'il y avait un vendeur en disant « je suis très intéressé par cette voiture, j'aimerais l'essayer ». Nous, on alternait avec nos commerciaux entre du télétravail, du chômage partiel, de la présence sur site, parce que le télétravail, au bout d'un moment, il devenait fou. On les remettait en situation pour faire des relances, relancer leurs clients, envoyer des vidéos de chat aux clients pour faire ce travail-là à distance. Et vous avez un commercial qui me dit « tiens, il y a un client qui est intéressé », normalement, il n'a pas le droit de le recevoir. Mais lui, comment il nourrit sa famille en fin de mois? C'est en vendant des voitures. Et donc, il y en a des concessionnaires qui se sont fait piéger, où en fait, cette personne de la DGCCRF disait « je suis très intéressé, je vais essayer, si je n'achète pas la voiture, je n'achèterai pas ». Et un vendeur, si vous ne pouvez pas derrière tous les vendeurs à tout moment.
Ouais, la tentation est trop forte, bien sûr.
Là, ils se sont fait piéger, on sort sa carte de la DGCCRF, piégé.
Ah ouais, non, mais
administrative, les 10, 15, 20 millions d'amendes.
Xavier, Thomas.
T'as pas mieux à faire que d'aller contrôler des gens qui
travaillent dans
la réparation de voitures, qui trichent avec le chômage partiel.
Non, mais Thomas Courtois, quand on a préparé cette émission, tous les deux, vous m'avez raconté cette histoire, je trouve ça aberrant, parce qu'on peut faire son boulot de contrôle, il n'y a pas de souci. Mais là, ils ont piégé. C'est même plus du contrôle, en fait, Xavier.
J'ai plusieurs choses à dire rapidement. D'abord, je voudrais saluer Thomas, parce que. Le groupe qu'il représente est un groupe familial.
Le groupe Courtois.
Et j'ai quelques photos dans mon bureau et j'ai le photo de son papa qui m'accompagne depuis maintenant de nombreuses années, qui hélas nous a disparu et est parti trop vite. Et donc il fait partie de ces groupes pour moi qui sont emblématiques des valeurs que porte l'automobile. Ce sont des valeurs de pragmatisme, de réalisme, c'est-à-dire de faire les salaires à la fin du mois, d'investir, d'embaucher. De prendre des risques. Le CNPA, c'est un mouvement patronal.
L'insertion professionnelle, respecter l'environnement, c'est valeur essentielle.
Ils s'organisent conformément à la réglementation en participant à toutes les grandes politiques publiques, que ce soit l'environnement, la sécurité routière et beaucoup d'autres choses. Moi, je trouve assez cynique ce que raconte Thomas, c'est-à-dire ce cynisme grave de la part de représentants de l'État qui oublient cette réalité qu'on retrouve dans notre secteur comme dans d'autres secteurs économiques. Au moment même où il est impératif de réouvrir nos commerces, de réouvrir les entreprises, de sortir de ces confinements, de sortir aussi de ces manifestations, je trouve assez révoltant que des représentants de l'État qui font leur travail, par ailleurs, mais se précipitent dans les entreprises pour les piéger, et de voir l'absence de ces représentants de l'État quand je vois d'autres professionnels se faire vandaliser, être mis à sac, comme je l'ai vu samedi dernier dans le cadre des manifestations.
La tentation était trop forte quand tu as un contrôle de ce type par la DGCCRF et que tu vois la vente d'un véhicule potentiel avec quelqu'un qui insiste, forcément au bout d'un moment la tentation est trop forte.
C'est un piège, c'est une caméra cachée. Excusez-moi, c'est dégueulleace, on parle vrai sur Sud Radio. C'est dégueulasse.
Votre radio, c'est effectivement Parlons Vrai, c'est un piège. Et je pense qu'avec l'État, il faut rentrer dans des politiques qui soient basées sur la confiance. Je pense que l'oxygène vital qui manque tant à notre société aujourd'hui, c'est la confiance. On ne peut pas d'un côté aider les entrepreneurs et de l'autre côté les piéger, comme le raconte Thomas à l'instant. C'est tout à fait révoltant. Et encore une fois, j'insiste, c'est d'autant plus révoltant que les autorités de l'État ne sont pas présentes quand les commerces se font mettre à sac, comme je l'ai vu samedi dernier à Paris.
Parlons de ça sur la concession BMW.
Cette concession BMW, elle est comme tous les concessionnaires et comme tous les distributeurs ou réparateurs de France. Encore une fois, vous en connaissez le poids économique. Ils ont une responsabilité sociale qui est très forte. L'entreprise dont on parle emploie 250 personnes à Paris. Ils ont fait des investissements extraordinairement importants pour répondre aux besoins de nouvelles mobilités en centre urbain. Ils payent leurs impôts. Et ils ont été pillés par des émeutiers, pour ne pas dire davantage, dont le seul but est d'installer le chaos dans notre pays.
C'est ça.
Donc, je trouve que c'est un drame, parce que la solidarité que le CNPA lui témoigne, c'est bien sûr un devoir, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour réparer des années de travail. Ce n'est pas suffisant pour réparer le traumatisme au niveau des salariés. On parle de, peut-être, j'espère que nous passerons à travers, d'une troisième vague sur le plan de la pandémie. Nous verrons bien, mais ce que je crains, c'est que cette troisième vague soit une vague de nature beaucoup plus psychologique. Je vois que les équipes sont atteintes aujourd'hui dans nos entreprises, comme au CNPA, comme dans nos principaux organismes paritaires. C'est difficile, la morosité, elle est là.
J'imagine dans tous les autres milieux professionnels.
L'économie, elle a besoin d'entraînement, elle a besoin de confiance, elle a besoin d'oxygène. Nos entrepreneurs, ils ont besoin qu'on les laisse travailler. Ils ont besoin de créer de la richesse. Si on s'appauvrit, si on contraint encore plus, toujours plus, avec toujours plus de taxes, toujours plus de réglementations, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut justement miser sur l'intelligence plutôt que de toujours miser sur la sanction et sur l'interdiction.
Il nous reste une minute à peine. Qu'est-ce que le CNPA peut faire aujourd'hui et qu'est-ce qu'il va faire pour aujourd'hui et demain pour aider toutes les professions de l'automobile concrètement ? Il y a des choses qui vont être mises en place ?
Bien sûr, il y a énormément d'actions qui sont montées par les équipes et par le président. D'abord, je voudrais saluer notre président, Francis Bartholomé, qui a été touché par le Covid. J'aimerais aussi saluer toutes les équipes du CNPA qui ont fait un travail absolument remarquable, dans nos territoires, comme au siège. J'aimerais également saluer toutes les équipes de la formation professionnelle, de la retraite, de la prévoyance, de la santé. Au total, nous comptons sur à peu près 3500 salariés qui travaillent pour la branche. Donc cette force-là, avec Francis Bartholomé, nous allons la mettre davantage en tension pour rentrer dans un rapport de force rationnel, apaisé, mais pour dire un certain nombre de choses au pouvoir public d'un côté. De l'autre, nous allons aussi utiliser le levier, comme le levier du plan de relance, par exemple, pour accompagner la transformation de nos métiers. On en a besoin, parce que nos métiers, c'est aussi 60 000 jeunes que nous formons chaque année. Cette responsabilité-là, elle est très forte et donc on ne peut plus supporter que l'on parle aussi mal des métiers de l'automobile aujourd'hui, alors que ce sont des métiers qui donnent leur chance à notre jeunesse et qui apportent de la richesse au pays.
On n'a pas eu le temps d'en parler parce qu'il y a tellement de choses à dire et Pierre, je vais te laisser le mot de la fin, mais il y a aussi le Move Lab, il faudra qu'on revienne. Vous revenez pour parler du Move Lab ?
Je reviens sur le Move Lab, juste d'un mot sur le Move Lab.
Très vite, parce qu'il y a mon Pierrot qui veut parler.
Et ça parlera aussi à la jeunesse, parce que la jeunesse, on leur parle beaucoup de start-up et d'innovation. La bonne nouvelle, c'est que l'automobile est un secteur d'avenir. c'est un secteur qui est tourné sur la nouvelle technologie, sur l'innovation. Et c'est la raison pour laquelle le CNPA pilote une verticale sur la mobilité au sein du plus grand incubateur au monde, qui est Station F. C'est une très belle responsabilité, c'est une belle histoire. C'est l'histoire de la technologie, c'est l'histoire de l'innovation. Et je donne rendez-vous à tous les entrepreneurs, mais aussi à nos jeunes, parce qu'il y a énormément d'opportunités à saisir dans nos métiers.
Vous revenez pour parler de ça, de Station
Avec
F et de la mobilité de demain grâce
Avec
au CNPA.
Grand plaisir,
Pierrot, le mot de la fin, mon loup ?
Bah, il est très simple. Aujourd'hui, je pense qu'on a bien compris, les mesures tombent les unes après les autres et l'automobile est en danger. Mais quand l'automobile est en danger, il faut se rendre compte que derrière l'auto, dans l'auto, il y a quelqu'un derrière le volant. C'est vous, c'est nous qui sommes en danger. Et je pense qu'on ne passera pas à travers l'économie d'un grand rassemblement entre le CNPA, les constructeurs et l'association d'automobilistes qui ne doit pas être laissée sur le côté. Parce que nous, on peut se permettre à 40 millions d'automobilistes d'avoir un discours beaucoup plus sévère vis-à-vis des dirigeants qui font n'importe quoi et qui sont en train de terrasser l'emploi pour les futures années. Voilà, et notre bonheur aussi.
Eh bien voilà, en tout cas, le combat a commencé. Je pense qu'il est loin d'être terminé. Et vous savez, vous pouvez aussi compter sur Sud Radio avec toute l'équipe du CNPA.
Merci Laurence, merci à tous vos auditeurs.
Et à Pierrot, on est tous les deux.
Et Pierre
Chasseret, pardon.
Et merci pour tout ce que vous faites au quotidien pour bien informer les automobilistes et les Français de manière générale.
On essaie au maximum. Je suis en train de me faire tuer du regard par mon super réalisateur Max qui me dit « Lolo, on est très en retard. Allez, très rapidement, allez vous faire contrôler votre véhicule à l'approche de l'hiver. » Eh bien, on en parle dans quelques instants, entre autres avec les contrôles techniques. À tout de suite. Merci Xavier Oran.
Sud Radio, ça roule, 11h30. Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et avec toi, mon Pierre, eh bien, on voulait aussi prendre le temps d'évoquer la voiture avant l'hiver, contrôle technique. Ça, c'est important puisque c'est un sujet qui nous tient aussi à cœur.
Et bonjour, Laurent Palmier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Bonjour, Laurent.
Bonjour, Laurence. Bonjour, Pierre.
Alors, Laurent Palmier, c'est le directeur général d'une marque de contrôle technique que nous connaissons tous, qui fait partie d'un groupe, SGS. C'est la marque Securitest.
Securitest, oui.
Alors, et vous étiez, Laurent, à l'époque, l'un des premiers partenaires, d'ailleurs, de Saroule SGS, à nous avoir fait confiance. Et merci pour ça. On a choisi ce sujet avec vous aujourd'hui, Laurent, parce que l'hiver arrive, il commence à faire un petit peu froid. Moi, j'avoue que ce matin, j'avais un petit peu froid au peloton et je me dis que ma voiture devait aussi avoir froid à ses pneus. Et on a voulu, avec Laurence, aujourd'hui, passer en revue tout ce qu'il fallait faire pour faire en sorte qu'on roule dans les meilleures conditions de sécurité, ce qui est quand même la vertu même du contrôle technique.
Oui, bien sûr. Alors, un petit mot avant pour marquer ma solidarité à Xavier Oran et à son message de tout à l'heure. Je vais être, moi, un petit peu plus léger dans mon approche. Vous savez que nous, dans le contrôle technique, il y a quelque chose qui est excessivement important, c'est l'état du véhicule, mais la première chose qu'on aimerait que les gens vérifient, c'est leur vue.
Et on a une
petite méthode chez nous pour vérifier la vue. On demande simplement à nos clients ou futurs clients de jeter un petit coup d'œil dans l'angle droit de leur pare-brise et de regarder sur la vignette sous le numéro d'immatriculation, là où ils trouveront inscrit en un petit peu plus gros, parce que ça a été modifié il y a 2 ans, la date de leur prochain contrôle. Donc c'est un moyen mnémotechnique de vérifier sa vue
pas
et
mal.
D'être sûr de ne pas passer au travers de son contrôle.
Elle est jolie, hein. Elle est pas mal celle-là.
Plus sérieusement, c'était pour vous détendre un petit peu, il faut savoir que chaque automobiliste a la possibilité de faire un contrôle technique volontaire. C'est notamment le cas pour les véhicules de moins de 4 ans, parce que pour les véhicules de moins de 3 ans et demi exactement, on ne peut pas faire un contrôle technique obligatoire.
D'accord.
Il est obligatoire au-delà. Et le contrôle volontaire, il peut servir avant l'été, avant de partir en vacances, mais il peut servir avant l'hiver, parce qu'avant l'hiver, les jours raccourcis.
Mais c'est bien, parce que c'est un check-up indépendant finalement, parce que le garagiste, on se dit, si je lui amène ma voiture, potentiellement, il va peut-être voir aussi un petit peu son intérêt, forcément. Tandis que le contrôle technique, on le précise, Laurent, c'est indépendant, c'est même une des clauses sine qua non, c'est indépendant des réseaux de garagistes.
Ah oui, c'est une des clauses sine qua non, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de lien entre un opérateur de contrôle technique, le commerce et la réparation.
Mais À ce moment-là, Laurent, moi j'aimerais bien, puisque ça y est, on a vu, regardez, moi j'ai sur Facebook, sur la page Sud Radio Facebook, où on peut suivre l'émission également en live. Bonjour à tous ceux qui nous suivent hein, d'ailleurs, mais on a Stéphane qui nous disait ce matin, il y avait déjà un mètre de neige là où il habite. Alors je ne sais pas où habite Stéphane, mais donc ça y est, on rentre dans l'hiver concrètement. Il nous annonce des températures extrêmement froides pour la semaine prochaine. Ça va commencer vraiment à bien geler. Donc concrètement, quel conseil on peut donner à nos automobilistes et à ceux qui écoutent Sud Radio, ça roule ce matin, pour bien préparer, bien checker la voiture pour l'hiver?
Concrètement, on doit s'assurer d'un bon fonctionnement de sa batterie, on doit s'assurer d'un éclairage parfaitement adapté et bien réglé, on doit s'assurer d'un fonctionnement de son désembuage, on doit être certain de la possibilité à tout moment de nettoyer son pare-brise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des balais d'essuie-glace en parfait état, ou pour le moins une petite astuce, c'est de les nettoyer à l'eau chaude avec un petit peu de vinaigre
blanc.
Voilà, tout simplement. De s'assurer que lave-glace est fonctionnel à des températures négatives, moins 10, moins 15, moins 20, selon là où vous habitez. Et surtout d'avoir des pneumatiques en parfait état. Parce que dans une année un petit peu particulière où les gens ont moins roulé, ont moins utilisé leur véhicule, ouais. Il faut que les pneus soient en parfait état, mais surtout que la pression des pneus soit en bon état aussi. Parce que tout le monde n'aura pas un mètre de neige, mais tout le monde aura des conditions de pluie, comme on a rencontré cette semaine, de vent. Et là, il faut être prêt à aussi adapter sa vitesse, d'ailleurs. C'est un petit rappel qu'on peut faire.
Ah, mais c'est bien. Est-ce qu'on peut, parce que vous parliez à Montpierre chez Securitest, Laurent Palmier, puisque vous êtes président de Securitest, juste emmener sa voiture pour faire un petit contrôle check, mais dans ces cas-là, combien ça me coûte? Parce qu'on va, on vient vous voir qu'une fois tous les deux ans après les quatre ans de la voiture, parce que ça coûte des sous, en fait. Hein. Sinon, on ne viendrait pas du tout.
Hein. Non, vous venez nous voir parce que c'est un caractère obligatoire. Et ça coûte des sous parce qu'un contrôle technique, ça dure entre 30 et 45 minutes, selon le type de contrôle, l'âge du véhicule, etc. Donc un contrôle volontaire, il peut être total, c'est-à-dire qu'il peut être de la durée de l'opération obligatoire, ou il peut être partiel, c'est-à-dire que vous pouvez amener votre véhicule pour contrôler l'éclairage, pour la contrôler pollution, la signalisation, la pollution, l'état des pneumatiques, etc.
Mais on est sur quel budget en moyenne ?
Là, c'est très variable, parce que un contrôle volontaire complet, c'est le prix d'un contrôle obligatoire complet, puisque c'est la même durée. Et puis après, vous avez des tranches d'opérations qui vont aller de 30 à 70 euros, selon la nature des contrôles que vous ferez faire.
Super. En tout cas, je le rappelle quand même, le contrôle technique, c'est vrai que Lolo, on a tendance, quand on amène notre voiture, c'est pas le prix du contrôle qui nous fait peur, c'est le prix des réparations potentielles qu'il y aurait derrière. Seulement, s'il n'y avait pas le contrôle technique, peut-être qu'on ne ferait pas ces réparations et ça nous coûterait beaucoup plus cher. Entretenir, ça coûte toujours moins cher que de passer à la réparation totale.
Et puis quand on a un véhicule effectivement qui est un peu fragile en ce moment, aller faire un petit contrôle comme ça chez Securitas, par exemple, ou chez les autres, ça vous permettra peut-être d'avoir moins de mauvaises surprises lors du vrai contrôle technique obligatoire. Merci beaucoup Laurent Palmier, merci d'être intervenu dans Ça roule ce matin sur Sud Radio. On vous embrasse, bon week-end.
Bon week-end à tous.
Tout de suite, ça s'est passé cette semaine et c'est signé Gaspard.
Alors que le taux d'inflation pour 2020 est négatif de l'ordre de moins à 0,23%, des études juridiques viennent d'être publiées. Elles affirment qu'elles sont illégales. La hausse du prix des péages sur les autoroutes semble se confirmer pour 2021, calculée par les sociétés concessionnaires d'autoroutes et présentée hier au comité des usagers du réseau routier international. Ces hausses devraient s'échelonner au 1er février avec une moyenne de l'ordre de 0,44%. Une potentielle hausse qui a du mal à passer pour les automobilistes, surtout avec la crise sanitaire actuelle. Pour rappel, en 2020, la hausse moyenne était de 0,80%. Conséquence heureuse du coronavirus, les vieilles voitures ont la cote. C'est une conséquence inattendue, quoique prévisible, de la crise sanitaire qui frappe le marché de l'automobile. Si celui de l'occasion est en recul de 4,6% depuis le début de l'année, les voitures âgées de plus de 15 ans ont vu leur vente progresser de 3,7%. Une hausse que l'on doit au rejet des transports en commun, de plus en plus boudés par les Français durant la crise sanitaire. Le site spécialisé Autoscout24 précise qu'entre juillet et septembre, les demandes pour les véhicules âgés de plus de 20 ans ont augmenté de 80% en France, ce qui traduit bien ce besoin accru de mobilité individuelle au détriment des transports en commun, mais aussi peut-être une certaine prudence dans les achats du fait d'un contexte économique incertain. Et cela contraste avec le souhait du gouvernement de bannir ces véhicules avec ces zones à faibles émissions. On termine avec une belle initiative qui nous vient de Belgique. Pour beaucoup de Français en situation de précarité, le permis de conduire est un bien inaccessible. Pourtant, rares sont les dispositifs de gratuité pour ce qui devient de plus en plus cher à travers toute l'Europe occidentale. S'il y a bien des systèmes à 1 euro par mois en France, la Belgique est allée plus loin en proposant des chômeurs le passeport Drive. L'offre n'est valable qu'en Wallonie. Il faut que la personne soit en recherche d'emploi et dans un secteur en tension. Dans ce cas, l'équivalent du Pôle emploi en Belgique accorde le financement du permis de conduire à la personne sans travail. Ce dispositif coûte à la Wallonie quelques 8 millions d'euros, mais cela pourrait avoir des effets bénéfiques avec un retour à l'emploi rapide de nombreuses personnes dans des secteurs en demande. Une belle idée dont devrait s'inspirer la France.
Exactement, totalement d'accord avec toi mon Gaspard et merci de terminer sur ce côté très positif. Allez, à suivre, on parle de passion, voiture, de collection et François Alain, monsieur mécanique vintage sur RMC Story sera à notre compagnie. À tout de suite.
Sud Radio, ça roule 11h30. Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et mon Pierrot, pour cette dernière demi-heure, nous avons eu envie de replonger dans la passion des voitures de collection, n'est-ce pas ? On adore ça, nous. Hein.
Ouais, c'est un sujet qui vous plaît beaucoup, hein, vous qui nous écoutez. C'est vrai que dans ces temps de morosité autour de l'automobile, où les voitures neuves deviennent de plus en plus un luxe, parce qu'on les s'abatte sur les voitures neuves tout un tas de malus, que ce soit le malus au poids, le malus écologique et compagnie, eh bien, on finit par avoir les yeux qui se tournent vers ces véhicules un peu young timers, comme on les appelle, ces véhicules qui ont entre 15 et 30 ans, on va dire. Et puis tous ces
la
véhicules.
La Renault 5, plus, la voilà, Peugeot 205.
Tous ces véhicules aussi qui ont plus de 30 ans. Et cette fois-ci, là, on parle de la Renault 5 et de la 205 et qui basculent de plus en plus véhicules de collection avec tous les avantages que vous avez sur la carte grise, etc. Et nos yeux, eh bien, se tournent toujours vers ces voitures mythiques, ces petites coccinelles qu'on aime tant. Et pour en parler, j'ai envie de dire pour parler vintage. Ah, eh bien, forcément, il n'y en a qu'un. Le journaliste auto préféré des Français, d'ailleurs.
C'est François Alain qui, normalement, nous rejoint par Zoom, qui va être également avec nous sur la page... Ah, il est au téléphone, pardon. Donc, il sera aussi, pardon. Bonjour, mon François, comment vas-tu ?
Ça va, les amis ?
Ouais, ça va très bien. Reste avec nous, car nous allons évidemment parler de voitures collection passion, mais on va parler aussi de ce marché qui transporte de nombreux Français. Et puis, on vient d'en parler pour une voiture, on va dire, classique. Les voitures de collection, ça demande aussi un entretien très particulier. Allez, c'est tout de suite... Juste après la pub, voiture de collection, vous aimez ça, vous en avez une, vous dites que ça vous coûte trop cher à faire réparer, vous n'avez pas les bons matériels ou au contraire, vous arrivez à tout gérer, vous nous retrouvez pour parler voiture de collection au 0826 300 300 car nous aurons aussi le plaisir d'accueillir un spécialiste, il s'agit de Abel Santiro qui est le régional manager d'une maison que connaissent bien les collectionneurs, c'est CTEK. On en dira plus dans quelques instants.
Sud Radio, ça roule, 11h30. Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Êtes-vous amoureux de vieilles voitures, les voitures de collection ? Êtes-vous également passionné ? Êtes-vous young timer ou plus old timer ou autre ? C'est vrai que les Français sont des collectionneurs amateurs, presque professionnels d'ailleurs, pour certains d'entre eux. Alors on va parler de cette passion voiture de collection, mais on parlera aussi entretien des voitures de collection pour l'hiver. Qu'est-ce qu'on en fait de nos voitures de collection ? Est-ce qu'on les laisse rouler alors qu'il va peut-être faire moins 7, moins 2, qu'il va neiger, moins 12 ? Est-ce qu'elles peuvent rouler aussi bien que nos voitures actuelles avec l'hiver qui peut les agresser ? On en parlera avec un professionnel, il s'agit de Abdel Santiro qui va nous rejoindre de la marque CETEC. Mais tout de suite, mon Pierrot, effectivement, tu l'as annoncé, François Alain, entre autres, monsieur mécanique vintage sur RMC Découverte est avec nous. Ça va bien François ?
Oui, très bien, très bien, très bien.
T'es pas étonné de voir l'étude comme quoi les Français sont amoureux des voitures de collection ?
Mais c'est juste une évidence. il est évident quand on voit notamment le succès des émissions, pas uniquement la mienne, mais des émissions d'automobiles aujourd'hui. Il n'y en a jamais eu autant, ça n'a jamais eu autant de succès. C'est la preuve que les Français aiment leur voiture, qu'elle soit moderne ou ancienne. Et là, il y a un distinguo à faire, parce que moi, j'entends beaucoup de mes petits camarades qui sont très inquiets de l'avenir de la voiture ancienne. Je pense que le problème, il vient d'une raison très simple, c'est la confusion du mot voiture ancienne et vieille voiture. On met là-dedans un peu tout et n'importe quoi. Et le problème vient de ça. En fait, il y a deux choses très différentes. Il y a des gens qui utilisent des voitures, des vieilles voitures, entre guillemets, parfois pour aller bosser parce qu'ils n'ont pas forcément le choix. Et donc, ils sont obligés de maintenir un véhicule ancien, mais qui n'est pas pour autant un véhicule de collection, pour aller travailler et faire donc beaucoup de kilomètres. ces gens-là ont peut-être une possibilité qu'on les aide et qu'on trouve des solutions intelligentes pour passer à des véhicules usuels, modernes, plus récents, moins polluants. Et puis d'un autre côté, mais ça n'a rien à voir, les gens qui ont des voitures de collection, qui sont des voitures qui servent très peu, on sait très bien, toutes les études montrent que la moyenne des kilomètres parcourus par an est inférieure à 1000, c'est rien.
Par an
donc, par an, 1000 km par an. Oui, oui, je dis bien 1000 km par an, là où, où certains gros rouleurs roulent 1000 km par semaine.
Il y en a qui font plus avec leur vélo, hein.
Oui, non, mais bien sûr. Non, mais c'est un faux problème. Que, voilà, je sens effectivement chez mes camarades passionnés par les voitures anciennes, cette espèce d'affolement à se dire on va nous supprimer. Alors déjà, je pense qu'avant de nous supprimer, il faut déjà que les pouvoirs publics comprennent la différence entre un véhicule usuel de tous les jours et un véhicule de collection qui ne sert que finalement très peu, et qui est surtout un objet du patrimoine, un objet passionnel, mais qui est un objet du patrimoine. C'est deux choses différentes, c'est deux utilisations différentes, et c'est très très important qu'à l'avenir, on comprenne bien ça.
Alors, la passion...
Je voudrais revenir sur un point, parce que je me dis que beaucoup vont nous écouter, et tout le monde aime beaucoup ces petits véhicules de collection, et je voudrais revenir sur le prix d'un véhicule de collection, car contre toute idée reçue, un véhicule de collection, c'est un véhicule qui a plus de 30 ans. Sinon, on parle de young timers pour les véhicules d'un petit peu avant.
Absolument.
Et dans ces véhicules de plus de 30 ans, alors vous avez les icônes, et puis il y a souvent les petites copies d'icônes qui ont moins bien marché, qu'on peut trouver sur le marché de l'occasion, dans un très bon état, pour des sommes parfois inférieures à 4-5 000 euros. Donc le véhicule de collection n'est pas un rêve inaccessible,
mais,
très loin
de là. Je me bats tout le temps dans cette émission que j'ai la chance de faire sur RMC Découverte pour le dire. La collection, ce n'est pas que des Ferrari ou des voitures à des prix inabordables. Il y en a pour tout le monde, à tous les prix. Ah, tiens, c'est ça qui est important.
Ce que je vous propose, les garçons, c'est d'accueillir Nicolas au 0826-300-300. Ça réagit évidemment au standard de Sud Radio sur Ça Roule. Salut Nicolas.
Bonjour.
Vous êtes où, Nicolas? En Normandie, on me dit?
Eh bien oui, je suis en Normandie, mais j'écoute quand même Sud Radio.
Mais on adore. Et vous l'écoutez sur Internet ou sur l'appli du téléphone portable?
Sur l'appli du téléphone, quand ça capte, parce que forcément, je suis un peu dans le fond de la Normandie. J'en profite pour saluer François, que je connais bien.
Ah, très bien. Merci. Et puis, j'en profite moi pour dire qu'on peut aussi écouter ses radios préférées, dont Sud Radio, sur maintenant les décodeurs TV, les nouveaux. Là, hein. Vous mettez ça sur votre TV, ils vous cherchent la radio, vous êtes tranquille. On vous écoute, Nico, là, du coup, grande passion voiture de collection?
Eh ben oui, alors c'est aussi un peu mon métier, c'est un peu le même métier que François, je suis journaliste auto, mais à côté de ça, effectivement, on aime les voitures anciennes, et effectivement, il y a aussi il y a un problème qu'il faut aborder, je pense, c'est le problème des zones de circulation, des ZFE, zones restreintes, et il faut savoir qu'il y a un décret qui est passé en fait au mois de septembre, hein, Donc à la base, c'est les zones à faible émission de mobilité, en fait, c'est ça.
Alors attention, je fais une petite pause. Je fais juste une petite pause pour que tous ceux qui nous écoutent comprennent bien. Les ZFE, ces zones à faible émission, sont notamment des zones dans lesquelles les élus de métropole, comme à Lyon, ou des maires, comme à Paris, vont vouloir faire passer des restrictions de circulation. Voilà,
exactement.
Et basé sur le fait que le véhicule est plus ou moins ancien, diesel ou pas. Voilà, par exemple.
Voilà, donc c'est un décret qui est paru au mois de septembre, mais qui rend obligatoire, en fait, effectivement, la mise en place dans le courant de l'année, donc 2021, des zones à faible émission dans la plupart des grandes métropoles qui sont à ce jour, je crois, une bonne quinzaine quand même. Et se pose la question, en fait, effectivement, ce que disait exactement et très justement François Alain tout à l'heure, de ces véhicules de collection qui ont plus de 30 ans, qui sont reconnus comme véhicules de collection, qui font partie du patrimoine et qui sont concernés directement. C'est-à-dire que demain, dans ces grandes métropoles, on pourra plus rouler avec ces véhicules de collection. Alors ça pose, je pense, un gros problème. Enfin, il y a plusieurs questions qui se posent. Premièrement, effectivement, peut-être un problème de liberté individuelle. Bon, ça, c'est un vaste débat, mais ça pose aussi un problème, puisqu'en fait, c'est des voitures qui sont, comme l'a dit tout à l'heure François Alain, c'est des voitures qui font quelques centaines de kilomètres par an, qui sont en général des
plutôt
voitures
bien entretenues,
sont...
en plus, par leurs propriétaires qui sont fous amoureux. Hein. C'est comme les motards, en fait. Hein.
Voilà, je
c'est
pense ça. Que François ne me contredira pas, mais on passe notre vie dans les rassemblements de véhicules anciens.
Vous avez quoi, vous, Nicolas?
Alors j'en ai plus en ce moment, mais j'ai eu pas mal de voitures anciennes.
Comme
donc par exemple des Citroën. Pense pas à la connaît des 304, des choses.
Oui, on connaît tous un Citroën. Hein.
Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est sur un faux problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des voitures qui parcourent quelques centaines de kilomètres par an, qui sont en immense majorité des véhicules à essence, donc il y a très peu de diesel.
Ben
oui. Ils sont très bien entretenus, et surtout, effectivement, ça fait partie du patrimoine français industriel.
Aussi, ouais.
Et en fait, les collectionneurs se sentent un peu abandonnés.
Alors,
il y a la FFVE qui a fait une action.
Fédération française des véhicules d'époque.
Bon, voilà. Donc, qui a fait une sorte de lobbying en allant voir, individuellement, en fait, chaque métropole concernée par ces zones à faible d'émission.
Pour aller vite, Nicolas, faut arriver à la conclusion, mon grand, parce qu'il y en a beaucoup de monde qui veut intervenir, excusez-moi.
En fait, il faut, ce que je voulais dire, le message que je veux passer, c'est qu'il faut absolument soutenir ces actions, qui, de toute façon, ne changeront rien en termes de pollution, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et c'est important de soutenir ce patrimoine industriel. On est à des rares pays en France.
Et puis voilà, et puis la beauté, et puis on est tous pareils quand on voit une voiture d'époque passée. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend le temps de la regarder, on adore, on regarde même pas qui conduit. Hein. Ça marche même plus pour la drague. Toi, c'est normalement. Voilà. Nicolas, très vite, juste une chose, vous êtes en Normandie, mais vous êtes parisien à l'origine, non ?
Alors non, c'est l'inverse en fait. Je suis normand, mais je bosse toutes les semaines sur Paris. Donc
parce que vous avez chopé l'accent parisien, mon grand. Hein,
c'est bon.
Vous avez chopé l'accent du tiki parisien. J'adore.
Paris,
Nico, non mais c'est pas grave. Hein, vous savez, c'est tout va bien. Hein, ça va pas faire mal. Hein. Nicolas, restez avec nous parce que vous parliez de l'entretien. Vous parliez du fait aussi que les voitures d'époque ne sont pas évidemment les plus polluantes. Je voudrais qu'on accueille notre deuxième invité, qui est Abdel Santiro. Bonjour Abdel.
Ouais.
Abel Santiro.
Vous êtes ça, oui.
Le régional manager de CTEK. Alors si on vous accueille, c'est que CTEK, c'est une grande maison qui s'occupe aussi de tout le matériel pour entretenir, entre autres, les voitures de collection.
Absolument. Nous sommes le leader mondial de la charge batterie, donc charge et maintien de batterie. Donc nous sommes un groupe suédois et on s'occupe une grosse partie de notre clientèle sont effectivement des collectionneurs voitures.
Alors quand on parle comme ça avec François-Alain ou avec Pierrot ou avec Nicolas là de ce car bashing avec tout ça sur les voitures de collection aussi parce que soi-disant ça pollue, vous êtes la preuve vivante que de toute façon les voitures sont super entretenues en fait, c'est un gros marché.
Exactement. Déjà on s'occupe en fait d'entretenir les batteries et donc de moins consommer de batteries. Du fait qu'en les chargeant, vous les gardez trois fois plus longtemps, et vous allez les maintenant, vous allez avoir toujours un véhicule qui sera à la pointe. Et même pour les véhicules modernes, en fait, lorsque la batterie est chargée tous les trois mois, en fait, vous avez beaucoup moins de problèmes avec l'électronique, avec les filtres à particules, avec pas mal de choses.
Ouais, parce et que donc, ça, c'est le problème. Hein.
Vous allez avoir beaucoup moins de pollution.
On a tendance sur les véhicules, moi j'ai un petit véhicule comme ça, alors c'est pas encore un véhicule de collection, mais je l'aime beaucoup, c'est ma petite New Beetle verte que connaît bien Laurence, et c'est vrai que j'ai ce problème, parce que l'hiver, elle roule très peu, elle roule pas, pour faire simple, et quand je la rallume, la batterie, même si je la déconnecte, il faut la débrancher, malheureusement, souvent elle est à plat, donc je suis obligé de la booster, c'est toujours une galère.
Absolument, et sachez que quand vous boostez en plus, vous abîmez la batterie, et vous avez toujours un risque d'abîmer l'électronique du véhicule. Donc, il faut toujours préférer une solution de charge et de maintien de charge à une solution de boost. C'est vraiment très important.
Et important aussi de préciser, hein, Abel, parce que vous nous avez donné des chiffres. En France, on estime qu'il y a en gros à peu près 4 milliards d'euros que génère le marché des voitures anciennes. Ça occupe 4 000 professionnels. Donc, une fois de plus, c'est pas rien. On a des dépenses moyennes quand même annuelles liées aux véhicules de collection qui s'élèvent en moyenne à 6 190 euros. Sachant que les deux tiers de ces dépenses concernent l'entretien et la restauration. Donc, voilà, on est dans le vif du sujet, c'est que les collectionneurs font attention à leur voiture.
Mais absolument, j'en suis la première victime. J'ai un garage plein.
Et Laurence,
oui, François-Alain.
Il y a un petit détail pour compléter ce que dit Abel et que je connais bien puisque je suis utilisateur de ces produits, ça va, à titre personnel. On a d'ailleurs été partenaire pour l'émission, on le sera certainement bientôt à nouveau. C'est que quand on dit 4 milliards, il ne faut pas oublier qu'il y a 20% de TVA qui vont dans la caisse de l'État.
Mais oui.
Oui. Et oui, mais voilà, donc il faut aussi être réaliste, et l'univers de la voiture ancienne, ça fait bosser un nombre de professionnels extravagants, évidemment dans tous les secteurs de la restauration. Ça fait bosser des celliers, ça fait bosser des motoristes, ça fait bosser des carrossiers, ça fait bosser des fournisseurs de pièces, ça fait bosser des accessoires, ça fait bosser énormément de monde. Ça rapporte par définition beaucoup d'argent à l'État. C'est de l'argent qui reste en règle générale en circuit fermé en France. Enfin, il y a aussi beaucoup de choses qu'on oublie de dire, mais qui sont quand même très importantes pour l'économie circulaire française.
Ouais, je suis assez d'accord.
On l'oublie toujours.
Mais en fait,
quand on voit,
en fait, le car bashing, qui sont les voitures de collection, les voitures neuves, tout ce qui se passe en ce moment avec des gens qui se croient tout permis de tout casser. Je parle pas en vrai, hein, je parle aussi en image. C'est que les gens ne se rendent pas compte à quel point, Pierrot, évidemment, la voiture est une des poutres fondamentales de l'économie française, qu'elle soit collection ou. On a Quentin qui veut nous rejoindre rapidement, s'il nous reste à peine 2 minutes d'émission. Quentin, bonjour.
Bien sûr. Bonjour.
Vous êtes à Paris, vous? Au 0826 300 300. Collectionneur ou pas?
Ouais, je suis collectionneur, passionné depuis 3 générations, et j'ai même plaqué ma vie classique, entre guillemets, pour monter une start-up dans les voitures anciennes. Donc je connais bien François, j'ai monté Mécanicus.
Mécanicus, c'est quoi?
Ouais, exactement. En fait, on est des grands passionnés, on a complètement réinventé la façon d'acheter et de vendre des voitures anciennes pour rendre tout ça plus transparent et plus accessible à un plus grand nombre.
Concrètement.
Et on a créé un média dédié aux voitures anciennes également, pour pouvoir transmettre et partager la passion. Et j'ai fait pas mal d'émissions avec François, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est grâce à des gens comme François qu'on peut un peu répandre la bonne parole.
Mécanicus.com, c'est ça?
Mécanicus.com, ouais. M-E-C-A-N-I-C-U-S. Comme
et
ça,
c'est génial. Moi, je rêve de quelqu'un qui me permet d'avoir un garage pour garer une voiture de collection que j'aimerais bien avoir.
Ouais.
Mais j'ai pas de garage, donc pour l'instant, c'est compliqué d'avoir une belle,
ça
jolie...
Cool. Ouais. On vous aidera.
Ouais, cool.
Non, je pense que c'est un sujet intéressant. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Je fais une toute petite précision sur les emplois. Si on prend le monde des voitures anciennes au sens large, c'est 20 000 emplois. Donc c'est
énorme.
Encore plus important que ce qu'on disait. Et puis... effectivement, au-delà de ça, il y a tout l'aspect patrimoine, évidemment, mais il y a surtout, en fait, les centaines de rassemblements qu'il y a tous les ans, qui sont un vrai lien social pour plein de gens, qui permettent à de petites bourgades de se retrouver, de partager, de rencontrer. Donc, il y a un effet social et sociétal extrêmement fort. Et puis, l'autre chose, c'est que il y a une super perception du public des voitures anciennes.
Ah,
les gens aiment ça, on répand des sourires
on
sur
adore.
Les visages.
Bah, exactement ce qu'on disait, Nicolas.
Voilà. Ouais. Et puis, la dernière chose, c'est que...
Nicolas, il va falloir vous arrêter au stop, là.
Et la dernière chose, c'est que je pense que il y a un vrai avenir pour les métiers manuels et que il y a plein de gens qui se reconvertissent dans tous les métiers de la voiture ancienne.
Et bah,
je pense qu'il y a un futur et c'est important de le souhaiter.
Eh bah, ben, c'est dit. Nicolas, qui était avec nous, son site, c'est mécanicus.com. Allez faire un tour, hein, c'est génial. Il y a des podcasts, et non pas des podcasts, mais des podcasts. Moi, je vous aime déjà beaucoup. Et voilà, il y a des voitures à vendre, il y a plein de trucs. Merci aussi à François Alain d'avoir été avec nous. Mécanique Vintage Mécanique, c'est sur RMC Découverte. Merci aussi à Abel Santiro de TEK, la grande société des pièces détachées pour les voitures d'occasion. Voilà, et puis merci d'avoir parlé de collection. Mais je vais y arriver. Maintenant, c'est notre belle occasion de parler carburant. Waouh !
Sud Radio, ça roule, la minute qui carbure.
13 secondes, Gaspard.
Je ne sais pas, Laurence, car ça augmente beaucoup. Bon, je vais faire un cours, hein. Tout augmente, sauf le bioéthanol et... donc que le bioéthanol qui baisse, hein, qui n'augmente pas. Pour tout le reste, vous allez payer plus cher à la pompe en moyenne dans toute la France. Voilà pour la bonne nouvelle.
Voilà. Moi, j'ai fait le plein cette semaine, je m'en suis rendu compte. Hein. J'ai pris 5 centimes de plus sur mon plein en l'espace d'une semaine. Là, ça a été très, très vite. Pierrot, bon week-end.
Eh ben écoutez, bon week-end à tous. Et puis on s'approche de Noël. Moi, je vous souhaite de commencer à préparer un petit peu les jolis cadeaux, les sapins. Tiens, je vais faire mon sapin, Lolo.
C'est cool. Voilà, ça donne du boum au cœur et ça fait des jolies images dans les yeux des enfants et des plus grands. Gaspard, bon week-end aussi à toi. Je sais qu'on te retrouve demain matin avec les grands matins week-end aux côtés de Philippe David. Et merci à toi. Merci. Je vous embrasse. Merci à mon Max d'avoir été notre super réalisateur du jour. Et quant à nous, on vous retrouve samedi prochain. Tout de suite, on vous laisse avec les passionnés comme Pierre et moi de vin, l'équipe d'Alain Marty, c'est Invino sur Sud Radio.